France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Est.
Je suis assez vieille pour m'être levée à l'arrivée du professeur dans une classe. À vrai dire, je ne sais plus si c'était le prof ou le directeur ou le proviseur qui nous mettait tous debout. Je suis assez vieille aussi pour me souvenir que quand on voulait nous faire peur, on nous disait « si tu continues, je t'envoie en pension ». On a passé, évidemment, très largement, fort heureusement, la période des coups de règle sur les doigts. Je ne suis pas si vieille, mais je suis allée au coin pour bavardage avec les mains sur la tête, voire du scotch sur la bouche. Aujourd'hui encore d'ailleurs, les mains sur la tête, un grand mystère. Quand on parle aujourd'hui de retour de l'autorité dans les établissements scolaires, évidemment on ne parle pas du coin et des mains sur la tête. Mais l'internat, qui ne s'appelle plus la pension, a fait son retour pour éloigner les enfants perturbateurs de leur fréquentation malheureuse. On reparle de se lever à l'arrivée du professeur, on parle de sanctionner sur les notes du bac des comportements problématiques, de les inscrire aussi dans le processus de Parcoursup. Le Premier ministre l'a redit plusieurs fois, lorsqu'on gêne les cours, lorsqu'on défie l'autorité, lorsqu'on dégrade, lorsque l'on menace ou que l'on agresse, ça ne doit pas rester impuni. Alors l'autorité, mais c'est quoi? Est-ce que oui, les élèves sont plus rudes, voire plus violents qu'avant? Comment doit-elle s'exercer, cette autorité? Est-ce que l'adulte incarne forcément la règle, une sanction? À quoi doit-elle ressembler pour avoir du sens? Comment faire quand cette autorité est remise en question, parfois violemment? Est-ce que les jeunes profs sont armés pour cela? Et aussi, parce que ce sont des faits d'actualité qui nous le disent dans certains cas, à quel moment le comportement d'un élève doit-il sortir du collège ou du lycée pour devenir l'affaire de la justice? Et de tout cela dont on parle ce soir dans notre discussion, c'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Gilles, c'est vous le premier. Bonsoir et bienvenue, Gilles.
Bonsoir, je me sens très honoré d'être le premier. Je sais que je vais être très écouté.
Absolument.
Par des parents.
Tout va démarrer par vous, Gilles.
Oui, et aussi par des collègues. On est beaucoup en vacances. Alors, premièrement, merci pour vos émissions, c'est formidable. Alors, j'avais fait un petit calcul il y a quelques temps sur le temps dont je suis directeur et je gère aussi une classe, une petite école rurale. Mmh. Et on a, nous, les enseignants, sur l'échelle, sur toute l'année, hein, moins de 25%, pour reprendre la formule de Patrick Lehay, je crois, de temps de cerveau disponible des enfants. Mmh. Le reste du temps, c'est les parents, c'est la famille, c'est les structures sociales. Les textes nous disent aussi que les enseignants, on est co-éducateurs. C'est souvent oublié par les parents et on peut très aimablement le rappeler. On n'est pas qu'instructeur, on est co-éducateur. Ça veut dire que les parents sont éducateurs premiers. La société, vous l'avez souligné en chapeau, devient de plus en plus dure. J'ai vraiment, moi, le sentiment que l'école est un peu le théâtre de beaucoup de problématiques de la société et les enfants un peu comme des buvards, si vous voulez. La solution pour nous, sur le terrain, on n'a pas le choix, on doit faire équipe. On doit faire équipe avec nos premiers partenaires, on va dire la famille, les parents et les enfants. Alors en premier rideau, je dirais c'est avec les enfants. Donc travailler les règles, expliciter avec les enfants, avec les parents en réunion de rentrée, les faire signer. On va parler des sanctions. On va pas définir philosophiquement ce que c'est l'autorité. Par contre, on va dire qu'une sanction, c'est aussi positif que négatif. Ça veut dire qu'on va encourager, mais qu'on sera là à l'aune des règles explicitées et signées pour sanctionner et de façon intelligente pour que ça fasse sens pour l'enfant. Après, franchement, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est la qualité de la relation avec les familles, avec les enfants. Avec les enfants, il y a plein de petits dispositifs formidables, les messages clairs, des conseils de classe, c'est vieux comme le monde. Hein. Mmh. La place de l'enfant en tant qu'acteur de ses apprentissages, c'est une base. Après, ce que je disais au premier interlocuteur tout à l'heure, on a parfois des rapports de défiance de la part de parents on peut être aussi maladroit. Quand je dis qu'on peut être maladroit, c'est qu'en formation initiale, je vois mes jeunes collègues, j'ai 56 ans, qui arrivent. Quelle formation ils ont eu sur la gestion du conflit avec les enfants, la gestion d'une dynamique de groupe, à la gestion des conflits avec les parents. Voilà. Et puis, dans certains endroits, il y a une telle charge, si vous voulez, d'assaut sur l'école que, au-delà de la confiance initiale qu'on peut vouloir donner sur ce contrat, qu'on a aussi des équipes de circonscription. Par chance, chez nous, par exemple, on est beaucoup soutenus parce que même en milieu rural, ça peut être rude. J'ose imaginer le quotidien de certains collègues et certains établissements. Et par contre, ne jamais juger. Par contre, il faut qu'on réussisse à trouver des solutions tous ensemble.
Merci beaucoup, Gilles. Pardon de vous interrompre, mais vous avez dit beaucoup, beaucoup de choses qu'on va pouvoir, dont on va pouvoir discuter ensemble. Merci. Très bon premier appel, Gilles. Merci beaucoup. Vos collègues vous ont entendu pour discuter ensemble autour de cette table ce soir. Il y a Louise Touret. Bonsoir, Louise.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous êtes spécialiste des questions d'éducation. Vous produisez l'émission Être et Savoir sur France Culture et vous avez écrit En finir avec les idées fausses sur l'école aux éditions de l'Atelier.
Exactement.
Là, tout de suite, en 2024, ça vient de sortir. Guillaume Prévost est là également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes délégué général du think tank Vers le Haut, qui est spécialisé sur les questions d'éducation. Et puis il y a Aurélien Martigny également, bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Martigny. Vous êtes vice-procureur du tribunal judiciaire de Melun, secrétaire général adjoint de l'Union syndicale des magistrats. Et vous pourrez répondre à cette question que je posais en fin d'introduction pour savoir à quel moment certaines histoires sortent de l'école pour entrer dans votre giron à vous. On a entendu mille choses dans ce que nous dit le témoignage de Gilles, mais ce que j'ai retenu moi, alors j'ai retenu l'idée de, vous allez me dire si je me trompe, j'ai retenu l'idée de l'équipe, c'est-à-dire qu'il y a les élèves mais il y a aussi les familles, il y a tout ça autour. J'ai retenu aussi l'idée quand même de la coéducation. J'ai retenu l'idée, il a dit ce mot, il a dit parfois c'est rude. Et j'aimerais bien qu'on commence par là pour être vraiment clair. Est-ce que oui, Louise Touret peut-être, est-ce que oui, on dit qu'aujourd'hui c'est plus rude dans les classes, l'autorité est plus difficile, la réponse des enfants est plus difficile. Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui de tenir une classe que ça l'était ou pas?
Alors c'est un ressenti qui remonte très fort du terrain, c'est très difficile à quantifier. Le chahut, la contestation, ça a toujours existé. Vous avez vu la guerre des boutons, vous avez vu les 400 coups. On sait que le
chahut et contestation, c'est deux choses qui me semblent très différentes.
Les chahuts, c'était vraiment quelque chose.
Oui, absolument.
Les 50,
on est d'accord.
60,
oui, oui.
Les élèves pouvaient renverser les tables et tout ça. Non, mais ce que je comprends de la situation d'aujourd'hui, c'est que oui, ça remonte. Oui, c'est une difficulté pour les enseignants. Dans ce qu'a dit Gilles sur le collectif, effectivement, il faut faire collectif avec les parents. La coéducation, c'est très important. Ça, les ministres le disent, le disaient. En tout cas, c'était beaucoup mis en avant. Moi, je pense qu'il y a un autre élément dans le collectif, c'est la société, les politiques. Comment on parle de l'école? Comment on s'empare du sujet? Nous, les médias, comment est-ce que on évoque l'école? Quel miroir on lui renvoie, par exemple, en évoquant tout le temps les enseignants comme des gens qui font pas très bien leur travail. Je le dis jamais moi, hein, mais que voilà, que l'école a des
c'est ce que vous faites dans votre livre d'ailleurs, casser les idées reçues l'une après l'autre avec des choses aussi basiques que ça.
Quand on la réforme tout le temps en disant voilà, les enseignants peuvent travailler plus, on devrait faire autrement, et quand ça c'est tous les trois mois, est-ce qu'on ne sape pas aussi un peu l'autorité de l'école? Moi, c'est la réflexion que je voulais ajouter à celle de Gilles. Je ne sais pas si je vous ai tout à fait répondu, Fabienne.
Je vous ai vu opiner du chef Guillaume Prévost là-dessus, sur la coéducation. Mais pas seulement. Dans les mots de Gilles, il y avait la société est de toute façon de plus en plus dure. Et il n'y a pas de raison que, en gros, l'intérieur de l'école soit plus simple que la société aujourd'hui, finalement. Je vois notre ami magistrat qui fait oui avec la tête, vous prendrez la parole juste après. Est-ce que vous êtes là-dessus, vous aussi?
Oui, il y a quelque chose que je veux retenir, puisque Gilles a dit beaucoup de choses qui campent très bien les principaux aspects du problème. Il a dit quelque chose au début sur lequel je voudrais revenir. D'ailleurs, il y a un excellent article d'un enseignant récemment dans Le Monde sur cette question. L'autorité ne se décrète pas.
Ouais.
C'est pas parce qu'on dit autorité, 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 qu'on a de l'autorité, qu'on fait autorité. Je pense que toutes les personnes qui sont en situation d'incarner une autorité, que ce soit le chauffeur de bus, le gardien de square, l'enseignant, le parent le soir quand il rentre à 19h et qu'il faut vite, vite, vite manger la soupe, on est tous en situation de percevoir les limites que nous avons tous à incarner des autorités. Donc ce qui me semble intéressant derrière la réponse de Gilles, c'est de se dire quels sont les vrais leviers de l'autorité. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant respecte une autorité? Qu'est-ce qui fait qu'il consent à une autorité? Et je pense que sur cette question-là, on n'a pas pris la mesure de la crise éducative qu'on traverse, en particulier, je voudrais un rappel rapide, les émeutes de juillet dernier, la chute des résultats scolaires attestés par toutes les évaluations qui mettent entre aujourd'hui 20 et, on le sait, presque 50% des enfants en difficulté au collège, et santé mentale, des jeunes en grande difficulté dans leur rapport à eux-mêmes, les tentatives de suicide ont doublé chez les 18-24 ans depuis deux ans, depuis le Covid. Donc on voit bien que cette question de l'autorité, cette question du consentement de l'enfant à un adulte Est-ce que les enfants perçoivent encore les adultes comme étant à leur service? Je pense que cette question doit être posée.
Je voudrais qu'on finisse le tour de table avec vous, Aurélien Martini, parce que je vous ai vu effectivement réagir sur ces mots de notre auditeur. La société est de plus en plus dure, donc il n'y a pas de raison que cette société de plus en plus dure ne soit pas aussi, parfois, de plus en plus dure à l'intérieur d'une salle de classe.
Oui, c'est assez logique. Le ressenti de mes collègues sur le terrain, c'est effectivement qu'on est face à une société plus dure, et les mineurs ressentent ça très fortement. Ils sont des buvards, pour reprendre l'expression, et donc c'est assez logique que ça se répercute aussi sur l'école. Et un autre phénomène qui est à l'œuvre, c'est la judiciarisation qui touche la société dans son ensemble, mais qui touche aussi l'école. Moi, j'ai été frappé de voir à quel point on pouvait judiciariser ou tenter de le faire des affaires qui, sans doute, ne le méritaient pas toutes, et où des parents sont très présents et ont la sensation qu'en judiciarisant, en saisissant la justice, très tôt, pour des enfants très jeunes...
Parce que vous faites peur, en fait, parce que la justice fait peur, mais pas l'institution de l'éducation nationale. Je caricature un peu, mais c'est ça que ça veut dire aussi. Quand un parent ne dit plus « si t'es pas sage, t'ires en pension », mais qui dit « t'ires en prison », pardon, mais ça envoie quand même un sacré autre message. Hein.
Oui, et l'une des ambitions que peut-être peut avoir la justice, c'est de replacer aussi l'éducation nationale au cœur des relations et en tous les cas de l'objectif de faire des enfants des futurs citoyens, en lui donnant toute la plénitude de ce que doit être son action.
Alors, il y a quelque chose que j'ai retenu de ce que vous dites tous, et notamment, on va revenir sur cette question, est-ce qu'au fond l'adulte incarne la règle? Est-ce qu'il le fait vraiment? Et comment on peut le faire? Je voudrais, pour appuyer ce qu'on va se dire tout à l'heure, je vous ai vu, Louise, écoutez Bernard d'abord. Bonsoir Bernard.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, bah écoutez, vous avez commencé fort, hein, vous avez presque dit ce que je voulais dire. Mais bon, je vais essayer d'en placer une. Alors, moi je trouve qu'on est dans une séquence où on voudrait rétablir l'ordre à tout prix, mais une sorte d'ordre qui viendrait d'un âge d'or, où les enfants obéissaient aux parents et puis aux professeurs. Et puis, moi, je pense que c'est illusoire.
Vous avez été prof, vous, Bernard?
Oui, oui, okay. Oui, je suis à la retraite.
D'accord.
Voilà. Et puis moi, je trouve que comme on peut pas arriver à cette espèce de perfection autoritaire, on finit par se crisper, puis on perd toute crédibilité. Mm-hmm. Et comme dit Gilles, il faudrait travailler sur l'explication, il faut travailler sur le partage, il faut vivre justement avec les élèves ces idées d'autorité, dans le sens où un élève quelquefois qui perturbe, peut être un élève en souffrance. Mm-hmm. Faut parfois pas non plus être angélique. Hein,
Ouais, j'entends.
Voilà.
Bernard, merci beaucoup. Louise Touré, j'entends ce que dit Bernard. On a cette espèce d'idée d'un ordre à tout prix et surtout d'un âge d'or. C'est vous qui nous avez ramené effectivement au chahut de la guerre des boutons notamment. Oui, mais... qu'est-ce que c'est que ce fantasme d'un âge d'or? C'est l'âge d'or au fond peut-être où l'adulte incarnait l'autorité quoi qu'il fasse, de toute façon il avait le droit. En gros,
alors,
c'est ça
l'idée. Déjà, l'adulte qui incarne l'autorité quoi qu'il fasse, c'est horrible, c'est terrible et c'est pas ça qu'on veut dans notre société.
C'est l'époque où on tapait sur les gamins. Exactement.
Sur les enfants. Vous avez en mémoire, Fabienne, l'affaire du collège-lycée Bétarame?
Non.
C'est dans les Pyrénées. C'est un établissement qui est une pension dans lequel on mettait des élèves avec qui on avait maille à partir, parfois, pas seulement, un établissement privé religieux dans lequel il y a eu des exactions pas possibles parce que l'autorité, ça peut couvrir aussi des grosses déviances de la part des adultes. Mais ce que je voudrais surtout dire déjà, c'est que si on a un problème plutôt de vivre ensemble dans la société, parce que l'autorité, c'est pas du tout une fin en soi, tout de même, ça va être compliqué pour l'école avec ses petits moyens de tout régler, déjà. Ensuite, oui, il y a une pression exercée par les parents sur l'école, parce qu'en France, le diplôme compte énormément pour toute la suite de la vie. Alors, quand on a des mauvaises notes au collège, au lycée, ben oui, les parents se plaignent auprès des profs. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais ça veut dire qu'ils ressentent eux-mêmes une énorme pression. Et enfin, je reviens à mon point sur l'autorité. C'est pas une fin en soi, d'avoir des élèves bien rangés qui ne parleraient pas pendant tout le cours. D'ailleurs, je ne vois pas à quoi ça sert. On ne veut pas qu'ils parlent tout le temps, mais il y a des moments où on peut parler pour apprendre et échanger. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas la religion du silence. On n'est pas dans une armée elle-même fantasmée. On veut que les élèves apprennent, qu'ils travaillent, qu'ils tirent quelque chose de l'enseignement qu'on leur délivre. Donc, bien sûr que le calme, le silence, ça peut être un moyen. Et le respect des règles, surtout. Et le respect des autres. Parce que l'école, c'est dans la vie d'un enfant le moment où on apprend à vivre ensemble, à vivre avec les autres, ceux qui ne nous ressemblent pas. Et ça, on ne doit pas le faire, nous les adultes, comme doivent le faire les enfants. Donc, alors, c'est une sacrée mission pour l'école, c'est vrai.
Alors, allons-y sur ce qui a été mis sur la table, et on verra bien d'ailleurs ce qu'il en restera, parce qu'on ne sait jamais vraiment dans ces cas-là ce qu'il en reste, au-delà de cette espèce de fantasme de l'internat qui permettrait de retrouver un cadre. D'abord, on va essayer de gérer ça assez vite, Guillaume Prévost. Un internat, on est d'accord, n'est pas une maison de redressement.
Non, en effet.
Et d'ailleurs, est-ce qu'il y en aurait assez? Dans la parole du Premier ministre dit, mais il y a plein d'internats qui sont à moitié vides, donc profitons-en.
Parce que les gens ne veulent pas y aller.
Et c'est ça la raison, en fait, tout simplement.
Parce d'abord, je tiens, parce que finalement, on a commencé par remettre un peu les choses en perspective. Il y a quand même c'est un sujet, c'est pour ça que nous, on a choisi de s'emparer de cette question de l'autorité. C'est un sujet qui traverse la société, on le voit, donc il faut y répondre. Donc, que le Premier ministre choisisse de s'emparer de ce sujet, on voit bien il a choisi de porter son action politique sur ce sujet. J'y vois d'abord un signal positif. La puissance publique affiche sa volonté de prendre au sérieux sa responsabilité éducative, corollaire de son autorité. C'est une bonne chose. Que maintenant, on se pose les questions des manières d'y répondre. On voit bien que les modalités de l'accueil des enfants, en internat, sur les temps scolaires, sur les temps périscolaires, sont déterminantes. Si l'objectif, c'est d'enfermer les élèves entre quatre murs, je suis pas sûr qu'on réponde bien à leurs besoins éducatifs. Si l'objectif, c'est de sanctionner les parents qui disent déjà être en difficulté avec leurs enfants, je suis pas sûr qu'on fasse avancer qui que ce soit. Il y a une vraie question sur l'autorité, c'est une question importante, c'est une bonne chose que nous en parlions, mais il faut apporter des réponses qui soient durables, qui correspondent aux besoins des enfants, des familles et des éducateurs.
Mais là, on a bien conscience que autorité va avec sanction, en fait. C'est comme ça que ça a été présenté au
fond. Et pas que.
Et voilà. Non, alors, je suis d'accord avec vous, mais tel que ça a été présenté, c'est, il y aura donc éventuellement un placement en internat. Ce que j'ai surtout retenu, moi, c'est l'obtention des diplômes sera corollaire de l'état de l'enfant perturbateur, etc. Ce sera à l'intérieur de Parcoursup, etc. Moi, j'aimerais qu'on travaille un peu là-dessus. Autorité et sanctions. Pas de sanctions du tout. Est-ce que ça aurait du sens, Louise Touré? Comment on fait pour que la sanction semble adaptée? Comment ça marche, ça?
Alors, pas de sanctions du tout. Ça a pu exister dans des écoles expérimentales. Bon, je crois pas qu'on puisse, là, tenter ça à grande échelle en France. Mais je pense qu'il y a des pistes de réflexion. On va les laisser de côté pour ce soir. Il y a plein de sanctions. Il y a un arsenal de sanctions. J'ai tout regardé, là, j'ai imprimé le truc du ministère, ça fait des pages et des pages. Donc, oui.
Ça veut dire qu'il y en a plein qui existent déjà, surtout.
Mais oui, il y a un règlement intérieur, on le signe.
Bien sûr, ouais.
Moi, je signe trois règlements intérieurs à chaque rentrée pour chacun de mes enfants et aussi des punitions qui peuvent être données, des heures de colle, des mots d'excuses, lettres d'excuses qu'on demande aux élèves de rédiger. Il y a beaucoup de choses avant d'arriver au conseil de discipline et à l'exclusion définitive. Vraiment beaucoup, beaucoup. On peut être exclu avec du sursis. Voilà, il y a un arsenal.
Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin.
Ça fait longtemps.
Ça que vous dites en creux, en fait. Il n'y a pas besoin de plus.
Je ne sais pas, mais ça fait très longtemps qu'on parle de ces questions. Éric de Barbieux, ça fait 20 ans qu'il travaille sur la violence à l'école. J'ai eu des tonnes d'essais là-dessus. Voilà, c'est pas de nouveau.
Il y a des situations quand même très différentes, des enfants très différents. Moi, il me semble que l'autorité éducative, c'est d'abord répondre aux besoins de l'enfant. Or, parmi les besoins de l'enfant, on sait aujourd'hui qu'il y a le besoin de sécurité. Et parfois, la sanction peut en effet répondre à ce besoin de sécurité. Parfois, ne pas sanctionner, c'est ne pas répondre aux besoins d'éducation de l'enfant. Et donc, de ce point de vue-là, parfois, renoncer à toute sanction, c'est être dans l'abus d'autorité.
Aurélien Martini, là-dessus, et puis on retournera au standard, il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent nous parler des parents.
Oui, très rapidement, je crois qu'il ne faut pas confondre sanction et punition. Et c'est un amalgame qu'on fait souvent.
Absolument. C'est pas fait par le ministère,
absolument.
Il y a un onglet punition
absolument.
Et un onglet sanction.
Ouais. Ils font bien la distinction, au sens que, en fait, quand on se dote de règles et qu'il y a des comportements d'écart à la règle, il faut les sanctionner. Il faut rappeler la règle. Mais ça ne passe pas nécessairement par une punition, ça s'appelle simplement un rappel des règles. Et c'est au fond, vous avez dit tout à l'heure, l'autorité, ça n'est pas une fin en soi. Oui, c'est un moyen. Ça doit être un moyen. Ça n'est pas effectivement une fin en soi.
Oui, parce qu'on va à l'école pour apprendre. Hein,
exactement. Le but, c'est la transmission des savoirs et il faut que ça puisse se faire. Et donc, l'autorité, c'est le moyen de transmettre ces savoirs.
Catherine est avec nous. Bonsoir, Catherine.
Bonsoir.
On vous écoute.
Je suis enchantée, c'est la première fois. J'avais envie de revenir sur l'autorité. Là, j'entendais aussi, on disait qu'on signait des règlements intérieurs, par exemple, avant chaque rentrée. C'est vrai, mais faut-il encore les respecter? Par exemple, vous avez sur la tenue vestimentaire. Donc, quand on rentre au collège, par exemple, on met pas un short trop court, ça se fait pas. première rentrée, les sixièmes arrivent avec un short trop court, personne ne dit rien. Bon, ben voilà. Et en fait, je trouve que même en extrapolant sur les adultes, on entend tout le temps à la radio, à la télé. Alors si on fait ça, on est passible de tant d'amendes, de tant d'emprisonnement. Ben, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, donc on a peur de rien. Et les enfants, pareil. On signe des choses, on y va gaiement. Par exemple, au collège aussi, il y a des exemples. Ben, puisque les toilettes ne sont pas respectées, eh bien en fait, on va fermer les toilettes. Donc les enfants ne vont plus aux toilettes de la journée. Est-ce que peut-être, entre adultes, on ne pourrait pas réfléchir à comment on va faire ? Qu'est-ce qu'on va mettre en place ? Comment on peut faire ? Et tout de suite, c'est des sanctions. Et je pensais aux petits-enfants qui sont à l'école maternelle. Quand on leur dit « si tu fais ça, tu vas avoir ça », encore faut-il qu'au niveau du développement cognitif, on comprenne ce qu'on veut dire. Et il y a des enfants qui sont punis, ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait, parce qu'ils n'ont pas compris la condition.
Et parce que les explications n'ont pas été données avant, je repense à ce que vous nous dites tous, que vous signez au moment où le gamin rentre à l'école. Là, il va y avoir en plus le fameux contrat de droit et d'obligation. Donc ça existe déjà, on est bien d'accord. Il y a des chartes qui sont signées, il y a des règlements intérieurs. Mais c'est ce que je vous entendais dire de loin, Louise Thoré. Oui, encore faut-il les lire ?
Oui, alors.
Non, mais honnêtement, je dis ça sans plaisanter.
On ne rentre pas toujours dans les détails, mais je pense que ça peut s'expliquer dans les réunions de rentrée où ne vont pas, d'ailleurs pas tous les parents. Donc ça, c'est vraiment une question de coéducation. Mais en écoutant, je suis désolée, c'est quelque chose qu'il faut qu'on dise. Il y a des études sur les punitions, ce sont toujours les mêmes gamins qui sont punis. Et à 96% des garçons. À partir des heures de colle, c'est que des garçons. Ce sont des travaux de Sylvie Herald, qui sont assez anciens, au moins une dizaine d'années. Donc, on peut s'interroger sur le bénéfice qu'on tire de punitions qui, visiblement, renforcent des enfants dans leur identité. Peut-être d'enfants agités, de fauteurs de troubles, si on veut utiliser ce vocabulaire, et parfois dans leur identité virile, pour certains garçons. Et ça, c'est pas mal étudié. Il y a une sociologue qui s'appelle Margot Déage.
Hier, sur lutter contre le masculinisme, c'est aussi...
La question de la réputation, mais ça va jusqu'à la très grande violence, c'est ce dont on parle ce soir.
Absolument.
Exactement,
avec Charles Céline,
c'est vraiment très dramatique.
Exactement.
Margot Déage, sociologue, a suivi 4 établissements pendant très longtemps. Elle a été surveillante et elle en tire quand même une réflexion sur les effets de réputation, la violence que ça peut engendrer dans les rapports adolescents et avec les adultes qui, parfois, ne vont pas jusqu'à voir les causes de la violence. Je ne dis pas qu'il faut tout excuser, mais enfin, il faut quand même comprendre un peu ce qui se trame entre les enfants.
Mais c'est dans nos juridictions, on a 80, allez, je ne veux pas dire de bêtises, mais 90-95% d'hommes ou de garçons dans les tribunaux pour enfants. Donc ça rejoint effectivement les constats qui sont faits au niveau de l'éducation nationale.
On parle d'autorité à l'école ce soir au téléphone sonne avec Guillaume Prévost qui est délégué général d'un think tank qui s'appelle Vers le haut, spécialisé dans les questions d'éducation, avec Louise Touré qui est journaliste et spécialiste de ces questions, avec Aurélien Martini qui est vice-procureur du tribunal judiciaire de Melun, et aussi avec vous, Eric, bonsoir.
Oui, bonsoir. Je voulais réagir quand j'ai vu le titre de votre émission, Les jeunes et l'autorité. Je me suis dit, mais en fin de compte, ce ne sont pas les jeunes qui ont besoin d'autorité, ce sont les adultes qui ont besoin d'autorité pour qu'on leur obéisse. L'autorité naturelle, de mon point de vue, elle ne se décrète pas, elle est liée à l'exemplarité. C'est valable à l'école, c'est valable dans le rapport à la police, c'est valable dans le rapport au quotidien, j'ai l'impression.
Et on a Nathalie, merci beaucoup Eric, sur l'appli France Inter qui dit comment rétablir l'autorité auprès des enfants. Mais si les parents ne respectent pas eux-mêmes, et notamment le corps enseignant, beaucoup de professeurs se plaignent de l'attitude des parents qui remettent en cause les sanctions et sont parfois même, eux aussi, agressifs. Je vois tout le monde opiner du chef, surtout à ma droite, Guillaume Prévost.
Je pense qu'on ne prend pas la mesure de la crise de l'autorité si on ne comprend pas que c'est d'abord une crise de légitimité. Et que cette crise de légitimité, elle parcourt l'ensemble du corps social. On a parlé des parents. Les parents eux-mêmes sont en grande difficulté dans l'exercice de l'autorité. Je pense que tous ceux qui ont peut-être à l'heure actuelle, là, en ce moment même, la responsabilité de parents, le savent. Le dernier baromètre de l'Union nationale des associations familiales dit qu'un tiers des parents interrogés juge qu'affirmer leur autorité est compliqué. Un quart des parents en couple et un tiers des parents isolés souhaiteraient de l'aide pour exercer l'autorité. Donc ouais, cette question de l'autorité, c'est pas une question qui ne concerne que les institutions, qui ne concerne que l'école. C'est tous les éducateurs sont en difficulté dans le sentiment qu'ils ont de leur propre légitimité. Et ça appelle une refondation profonde de... Qu'est-ce qui fait qu'on est légitime quand on exerce une autorité? Et je crois qu'il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure, finalement, avant on était adulte, on était légitime. Parce que c'était une autorité qui était statutaire, qui était liée au statut. Aujourd'hui, cette autorité, elle est plus liée au statut. Elle est d'abord, et je crois que c'est Gilles qui l'a dit d'entrée, elle est d'abord relationnelle. C'est de nouer une relation qui fait qu'on est légitime en tant qu'autorité. Et c'est particulièrement le cas en matière éducative. Vous êtes légitime à exercer une autorité pourvu que vous répondez aux besoins de l'enfant. Et de ce point de vue-là, je suis un peu en désaccord avec ce que vient de dire Eric, je crois, qui dit l'autorité, elle sert l'adulte. Bah, si elle sert l'adulte, c'est pas une autorité éducative. Si c'est une autorité éducative, c'est une autorité qui sert le besoin de l'enfant. Et le premier des besoins de l'enfant, je crois que c'est votre dernier intervenant qui a parlé de développement cognitif, le premier des besoins de l'enfant aujourd'hui, on l'essaie, c'est le besoin de sécurité affective. Mmh. Les enfants ont massivement besoin d'être sécurisés, et Madame Tourelle soulignait tout à l'heure les enfants qui multiplient les incartades, les bêtises, ce sont souvent des enfants qui sont profondément insécurisés, y compris dans leur famille.
Et ça, c'est ce que vous voyez, j'imagine, cette insécurité affective dans vos tribunaux, Aurélien Martini, parce que on voit bien la tentation d'amener ces enfants-là jusqu'à la réponse judiciaire. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. On essaye de judiciariser énormément. Est-ce que ce que vous voyez au fond dans vos prétoires, quand on parle des mineurs, ce sont avant tout des perturbateurs ou avant tout des enfants en insécurité affective terrible ? Et quoi que vous leur répondiez, du coup, vous n'aurez pas cette autorité légitime dont on parlait.
Alors, c'est difficile de faire un profil type. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'on a institué en France la même autorité, que ce soit le juge des enfants ou le procureur des mineurs, qui est en charge des mineurs, pour à la fois traiter les questions de délinquance juvénile et d'enfance en danger. Mmh. Ça n'est pas un hasard. Mmh. C'est bien qu'il y ait un lien entre les deux et que, bien souvent, on fait, nous, des liens et on voit que des enfants qui étaient en danger, qui ont subi des carences parentales, éducatives, affectives, peuvent se tourner vers la délinquance. Ce que vous disiez aussi tout à l'heure avec l'aspect viril de certains garçons quand ils sont dans un mauvais rôle. Mais ça implique effectivement d'avoir un travail sur les deux terrains. Le terrain de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire détecter et traiter au plus tôt les problèmes quand ils naissent, et notamment dans les familles. Et puis, de marcher sur l'autre jambe, qui est quand il faut punir, cette fois-ci, en termes de punition, avoir une réponse aussi adaptée. Mais c'est vraiment, notre système est original et efficace en ce sens que on a fait le lien entre les deux difficultés, parce qu'il y a un lien évident.
Mais là, après, enfin, si je puis me permettre, on est... Enfin, l'autorité, c'est pas forcément une notion dont moi, à titre personnel, je suis fan. J'ai pas été élevée comme ça, voilà. Donc peut-être que on peut expliquer. J'ai un peu enseigné très peu, mais quand même aussi en disant aux élèves que on le fait parce qu'on veut leur apprendre des choses, qu'on les éduque, si on accepte de prendre cette part du travail en tant que parent, c'est sûr. En tant que parent, c'est sûr. On les éduque et on les protège. Et ça sert à ça. Moi, j'essaye pas de me faire obéir parce que c'est cool d'être obéi. Mm-hmm. J'essaye, enfin, je sais pas si mes enfants m'écoutent, mais tout ça, ça a toujours, et c'est toujours la même chose. On a un objectif, c'est que le sommeil soit respecté, l'alimentation soit équilibrée, qu'on aille dehors parce que c'est mieux, voilà, et qu'on apprenne des choses. À l'école, on a du travail à faire des choses à faire en collectivité, parce que c'est ça le travail, le boulot de l'école, c'est d'être ensemble. Ça a du sens.
Et en même temps, je peux pas m'empêcher, je reviens à vous, pardon, Aurélien Martini, vice-procureur au tribunal judiciaire de Melun. Moi, j'ai l'impression qu'il y a, notre premier auditeur disait, la société est de plus en plus dure. Moi, j'ai l'impression que du coup, il y a une demande de la société un peu comme ça, à l'emporte-pièce, qui dit, ah bah du coup, il faut plus d'autorité. Là, ce qu'on met sur la table, par exemple, c'est une comparution immédiate à partir de 16 ans, c'est une espèce de composition pénale sans juge pour les très très mineurs, ceux de 13 ans, enfin, est-ce que tout ça répond à un espèce de besoin d'autorité ? La société dirait, écoutez, il y en a marre de ces petits perturbateurs, mettez-moi ça devant un tribunal. Où est-ce que ça nous envoie, ça ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que il faut savoir quelle est la place de chacun et quel doit être le rôle de la justice et quels sont ses moyens d'intervenir. C'est très important. Vous parlez de composition pénale pour les mineurs, j'ai entendu ça existe déjà.
C'est validé, mais avec juge.
C'est validé par un juge.
Mais c'est ça. La différence, elle est là.
Mais au fond, il y a beaucoup d'alternatives qui sont sous le seul contrôle du procureur de la République. Ça pose pas de grandes difficultés, à vrai dire. Je crois que le sujet, il est pas là. Le sujet, il est quand et comment intervenir. Quand, moi, je suis persuadé qu'il faut intervenir au plus tôt. Ça veut pas dire intervenir fortement. Ça veut dire intervenir, avoir une action. Montrer que les adultes, quand il y a un comportement d'écart à la règle, interviennent. Rappelle la règle. Il ne s'agit pas, comme vous le disiez en début de l'émission, de coups de règle sur les doigts, évidemment. Mais rappelle la règle. Mais intervenir vite, le Premier ministre l'a dit pour la comparution immédiate. Alors, il faudra rentrer dans les détails, parce que ça paraît difficilement constitutionnel, cette affaire-là. Mais En tout cas, si on intervient vite, on peut intervenir vite au pénal pour les cas graves. Et l'actualité nous en a donné un exemple très fort. Mais il faut aussi intervenir vite face à des familles en difficulté, à des mineurs en difficulté. Parce qu'encore une fois, si on fait l'un sans faire l'autre, on n'est pas efficace. C'est pas, il ne s'agit pas de justice ou de volonté d'autorité ou de répression, il s'agit d'efficacité. La justice, elle n'est efficace que si elle intervient rapidement dans ces cas-là. Je vous donnais un exemple et j'en terminerai par là. Quand un juge des enfants ordonne une assistance éducative en milieu ouvert, c'est une AEMO, et que le délai de prise en charge, c'est un an par les services de l'aide sociale à l'enfance, eh bien c'est trop tard. Parce que un an dans la vie d'un enfant de 10 ans, c'est extrêmement long, et la dégradation entre 10 et 11 ans peut être irrécupérable.
Et surtout, il ne se souvient pas pourquoi il va être sanctionné là, un an plus tard. C'est difficile pour un adulte, alors pour un enfant.
Absolument, et c'est aussi le cas des sanctions. Quand on dit que les sanctions doivent intervenir aussi, les peines, parce qu'on condamne des enfants, on condamne des mineurs, si elles interviennent 3 ans après, franchement, ça n'a plus grand sens.
D'abord, c'est qu'on a du mal à les protéger, c'est qu'on met du temps aussi à les protéger, les enfants.
On va y revenir, mais puisqu'on y est, vous avez prononcé l'idée de condamner des mineurs. Il y a cette histoire aussi d'atténuation de l'excuse de minorité qui met les magistrats, de manière générale, hors d'eux. En quoi ? Expliquez-nous d'abord, ça marche comment, l'atténuation de l'excuse de minorité ? Ça va jusqu'à quel âge ?
Alors, déjà,
l'automatisme, il dit quoi ?
Je pense qu'il faut s'entendre sur les termes, parce que ce qu'on appelle excuse de minorité, on a l'impression que ça excuse des comportements. Ça n'est pas ça du tout. C'est une cause légale de diminution de la peine. Qui dit quoi ? Qui dit que pour les mineurs, donc entre 13 et 18 ans, il n'y a pas de peine prononçable pour les mineurs en deçà de 13 ans, entre 13 et 18 ans, la peine encourue est divisée par 2. Si c'est la perpétuité, comme l'actualité nous en a malheureusement donné l'exemple, c'est 20 ans. Et entre 16 et 18 ans, on peut motiver une décision pour passer outre à cette cause légale de diminution de la peine. Mais au fond, la raison d'être de cette règle, c'est qu'on ne peut pas traiter un mineur comme un majeur. C'est ça la raison d'être. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que les peines prononcées sont deux fois moins fortes. C'est la peine encourue. Il y a un delta très important dans notre système judiciaire entre les peines encourues et les peines prononcées. Et c'est très important de le dire. Quand on dit qu'on va diminuer, je vous donne un autre exemple simple. La détention de stupéfiants, il y a beaucoup de jeunes qui sont impliqués, qui tombent dans ces réseaux, c'est 10 ans. Quand vous détenez des stupéfiants, quand vous transportez des stupéfiants, c'est 10 ans. Pour les mineurs, c'est 5 ans encourus. Est-ce qu'on a besoin d'aller au-delà ? Je ne suis pas absolument sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des peines qui permettent de répondre. La question, c'est à quel moment intervient-on ? Est-ce qu'on a suffisamment les moyens après pour suivre, pour mettre en place des mesures, pour détourner les jeunes, par exemple, trafic de stupéfiants ? Les séjours de rupture, par exemple. Très intéressant, les séjours de rupture. Il s'agit de casser le lien entre un jeune et le lieu, son lieu de vie. Parce que souvent, son lieu de vie, c'est là où le trafic est. Dès qu'il descend en bas de chez lui, il retombe dedans. Eh bien, ces jours de rupture, ils sont en nombre très, très, très faible.
Retour au standard, si vous le voulez bien, avec Irène. Bonsoir, Irène.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Irène.
En fait, voilà, moi, c'est une expérience. Ma fille, en fait, elle est au lycée et récemment, elle avait un comportement pas très approprié. Par exemple, un jour, elle-même arrive à la maison et elle me dit, oh, tu sais pas, la prof, elle me dit, je me suis levée et elle me dit, mais qu'est-ce qu'elle fait debout ? En fait, elle était fâchée parce que la prof l'a appelée elle et pas par son prénom. Et moi, je lui dis, mais t'étais debout, en fait. Tu lui as demandé ? Non, j'allais prendre un crayon. Je dis, mais en fait, elle a raison. Elle aurait dû même te retenir. Tu es dans son cours, tu lui manques de respect. Donc, je suis désolée. Donc, vous voyez qu'à la maison, quand même, il y a quelque chose où on lui fait comprendre, non, tu t'es mal comportée. Et je pense qu'elle a continué à avoir peut-être un comportement pas très bien en classe, puisqu'en fait, le prof m'a convoquée. Donc, j'y suis allée et nous lui avons bien remonté les bretelles. Lui avons fait bien comprendre, non, tu dois faire ci, faire ça, ça ne se fait pas. Et puis, elle est retournée en cours, ça se passe bien. Et puis, aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'appelle, parce que ça s'est passé vraiment là, aujourd'hui.
Allez-y.
Elle m'appelle, elle me dit, mais tu sais pas ce qui se passe. Il y a des garçons qui faisaient du bruit en classe. La prof les a collés. Et puis, quand ils sont sortis de colle, ils viennent me voir. Mais tu sais pas quoi, elle a parlé de moi. Au lieu de les reprendre eux, elle leur parle de moi. Elle leur dit, ah oui, elle devrait être une leader. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai convoqué ses parents. Et elle était choquée. Elle me dit, mais tu comprends, pourquoi elle va leur dire ça et tout? Et j'ai dit, bon. Et puis, elle me dit, ah non, non, c'est pas possible. Je dis, bah écoute, elle dit, mais moi, je vais lui parler à la prof. Je dis, bah oui, bah, tu vas lui parler, mais tu lui parles poliment. Tu vas la voir, tu lui dis que tu comprends pas pourquoi elle a parlé de toi au garçon, en fait. pour raconter ça.
Irène, merci beaucoup de votre témoignage. Ce que j'entends rapidement, Louise Touré, là-dedans, c'est stigmatiser, pointer du doigt, faire un exemple avec cette gamine qui, à un moment, effectivement, a bien compris où était la transgression de l'autorité, donc dit d'accord. Sur les choses simples du début, puis après ça devient extrêmement flou dans sa tête, et c'est normal.
C'est normal, et d'ailleurs contester, c'est pas complètement surprenant chez des adolescents, et quand Gabriel Attal dit on peut plus jamais contester l'autorité, je pense que c'est un peu des paroles dans le vide, parce que ça fait partie de l'autonomisation de la pensée que d'apprendre à contester, c'est désagréable pour les adultes, mais c'est aussi comme ça, et peut-être qu'il faut aussi des moments pour en parler. Ce qui est bien, c'est que les profs et les parents arrivent à se mettre d'accord. Je vous serais juste parler des moyens.
Allez-y.
Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même en Seine-Saint-Denis beaucoup de parents, d'élèves et bien sûr plein d'enseignants mobilisés pour avoir juste des moyens. On a parlé des toilettes tout à l'heure, des toilettes qui fonctionnent dans leur établissement, des plafonds et puis des profs en nombre suffisant parce qu'on manque d'enseignants. On va faire aussi des économies budgétaires, 10 milliards dont 700 millions sur l'éducation, donc on va manquer d'AED, de pions. Et ça peut aussi jouer sur le comportement des élèves.
Bonsoir Louise. Louise ?
Oui.
Pardon, il nous reste une poignée de secondes Louise, mais on tenait à vous entendre et on vous écoute.
Oui, bonsoir. Je suis d'accord globalement en tant qu'enseignante d'histoire-géographie avec tout ce qui a été dit. Je voudrais approfondir le côté manque de légitimité de l'école dans l'autorité qu'elle peut apporter pour les élèves, avec notamment le peu de légitimité qu'on a aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure... des influenceurs et des différents exemples que les élèves peuvent avoir de la part de personnalités qui n'ont pas réussi grâce à l'école. Comment leur apporter le goût de l'effort, le goût de la réussite, le goût de la régularité du travail à l'heure où on peut tout avoir en un clic à Dubaï avec des milliers de followers et de l'argent gagné hors des valeurs scolaires. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent très fort quand on demande aux élèves de se mettre au travail. Ils ne comprennent pas l'intérêt. Et donc, on a moins d'autorité après pour faire respecter des règles de vivre ensemble et des enseignements divers.
Merci beaucoup, Louise. L'autorité moins légitime, au fond, aux yeux et au regard de ce qu'ils ont autour d'eux. Qu'est-ce qu'on répond, Guillaume Prévost ?
Moi, je pense que l'intervention est très intéressante. L'école doit pleinement assumer sa mission éducative. Les enseignants sont trop souvent en difficulté face à un ensemble de sujets qui ne relèvent pas de leurs compétences. Aujourd'hui, pour que l'école aille pleinement à la rencontre des besoins des enfants, il faut que l'école se dote d'éducateurs.
Eh bien écoutez, ce sera la phrase de conclusion, ou plutôt, Louise Touré quand même renvoyer nos auditeurs, c'est à 21h.
À 21h, oui.
Bah oui, être et savoir. On peut vous écouter en podcast, on peut rester sur Inter et vous écouter en podcast, c'est comme ça que ça marche.